Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre de Paul à Timothée, dans la lettre de Paul à Timothée, vers chapitre 6. Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui sait tout, tu es un Dieu qui nous donne la vérité. Tu as permis que nous en disposions. Ta parole a survécu aux persécutions, aux essais de destruction. Nous l'avons entre nos mains. Seigneur, mais est-ce que nous la suivons? Est-ce que nous la croyons, Seigneur? Je prie pour que ce matin, ton Saint-Esprit grave les vérités que tu veux nous révéler dans nos cœurs et que nous vivions différemment, parce que tu es celui qui nous dit comment vivre. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin, les choses qu'il nous faut éviter, les choses qui vont nous faire du mal. Et Seigneur, je prie de nous parler ce matin dans le domaine des ressources financières notamment, de l'argent. Tu as des choses capital à nous dire là-dessus, Seigneur. Fais que ce ne soient pas des choses que nous trouvions intéressantes, simplement, mais que nous ayons le courage, la foi, surtout, de les vivre, de les mettre en pratique. Seigneur, que ton esprit, qui a inspiré ces paroles à l'apôtre Paul, les restitue dans nos cœurs, dans nos vies, d'une façon vivante, efficace. Seigneur, merci pour la promesse que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Nous te remercions pour cette parole, pour cette promesse. Ouvre nos cœurs, enlève tout sujet de distraction. Dans le nom de Jésus, nous le prions. Amen. La lettre de Paul à Timothée. Je crois que depuis que nous avons commencé l'étude, vous avez vu à quel point la parole de Dieu est pratique, comment la parole de Dieu nous exhorte au quotidien. Et nous avons abordé la semaine dernière le sujet dont Paul nous parle aujourd'hui, celui de l'argent. Il y a des richesses qui sont passagères et des richesses qui sont véritables. Les choses passagères, c'est notamment une doctrine que nous recherchons parce qu'elle nous promet la facilité, elle nous promet des bonnes choses. Mais souvent, cette doctrine qui nous promet ces choses, elle n'est pas la vérité. Et dans le domaine notamment de l'argent, de la gestion, comment se comporter vis-à-vis des ressources financières. Il y a toujours des extrêmes. Et les extrêmes, ce n'est pas ce que Dieu a pour nous. Dieu veut que nous vivions de façon extrême pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'on est bizarre. Ça ne veut pas dire qu'on est déséquilibré, bien au contraire. Dans le domaine de l'argent, quels sont ces extrêmes? D'un côté, il y a la vieille tradition ascétique. L'argent, c'est mauvais. Il faut être pauvre. Le bon chrétien, c'est celui qui crève de faim. Le bon chrétien, c'est celui qui a peur qu'on lui donne quelque chose, qu'il le rejette. Ah non, non merci. L'Église en France, l'Église évangélique, souffre de ce complexe du ghetto. On est saint, on est efficace lorsqu'on est nul, lorsqu'on est petit, lorsqu'on est méprisé, lorsqu'on n'a aucune influence. Alléluia. Ah, oh, je n'ai rien du tout, vive le Seigneur. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est la doctrine de la prospérité. Oh, Envoyez-moi votre argent, ce sera une semence qui va vous rendre riche. Ceux qui proposent ces doctrines n'y croient même pas. Parce que s'ils y croyaient vraiment, c'est eux qui devraient nous envoyer l'argent qu'ils ont pour devenir encore plus riches. Mais non, votre argent nous intéresse, comme disait la Société Générale. Alors, c'est vrai qu'entre ces extrêmes, le chrétien est souvent un peu perdu. Et on ne préfère pas parler d'argent. Le problème, c'est que le sujet de l'argent, c'est un des sujets que Jésus, de son vivant, a abordé le plus souvent. Plus que l'enfer, le paradis, que le péché, l'argent. Pourquoi ? Parce que où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, si vous voulez vous y tourner. Sermon sur la montagne, chapitre 6 de Matthieu, verset 19. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et là où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et j'ai souvent, quand on parle de ce verset, je fais remarquer qu'on s'attendrait à ce qu'il soit dit « Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. » Mais c'est l'inverse. C'est là où on met nos ressources que ça devient quelque chose que l'on chérit et que l'on, pour lequel on se fait du souci. Si vous achetez de l'or, ce n'est pas le moment en ce moment, vous allez voir le cours du lingot ou du lingotin, je crois que maintenant ils font des lingotins, c'est des petits dixièmes de lingot, ou le Napoléon, la pièce de 20 francs or, quel est le cours ? Vous allez vous réveiller le matin, voir les informations, votre cœur va être là où votre trésor est mis. Lisons ensemble à partir du verset 2 du chapitre 6 de 1 Timothée. On a déjà commenté quelques-uns de ces versets. On va juste les lire pour nous replacer dans le contexte. Paul s'adresse à Timothée, son disciple. Il veut l'exhorter à faire ce qui est juste dans la maison de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il donne des conseils à son jeune protégé qui manquait de confiance en lui. On a expliqué pourquoi. Et il lui dit, voilà ce qu'il faut enseigner. Verset 2, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui, intéressant, considèrent la piété comme une source de gain. Donc là, Paul recommande à Timothée de faire attention aux fausses doctrines. Fausses doctrines qui sont souvent utilisées pour s'enrichir par ces faux apôtres, ces faux enseignants. Il considère la piété, c'est-à-dire le fait de plaire à Dieu, le fait de vouloir plaire à Dieu, le fait de vivre d'une façon digne de Dieu comme une source de gain. Et verset 6, certes, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Et si vous voulez sauter jusqu'au verset 17 de ce même chapitre, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Nous allons nous arrêter là et parler de ces versets. Verset 6, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. C'est une chose fondamentale que cette notion de contentement. Le mot de contentement, c'est le mot qui nous donne le mot autarcie. L'autarcie, c'est la politique d'un pays qui vit seulement avec ses ressources et avec ses ressources seulement. Il n'a aucun échange, aucune importation, aucune exportation. Il vit en vase clos. Le seul exemple de pays qui est tenté l'autarcie véritable, c'est le seul pays au monde qui avait mis dans sa constitution que Dieu n'existait pas. Il s'agit de l'Albanie communiste. Et on sait que cette politique n'a pas mené à grand-chose. Je crois que la principale cause, c'était peut-être pas le principe d'autarcie, qui est un principe d'exclusivité, de repli sur soi, mais c'était surtout le fait qu'ils avaient inscrit dans leur constitution que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est pas très malin. Et Dieu a vite fait de remettre les choses en ordre. L'Albanie communiste n'existe plus depuis plus de 30 ans maintenant. Le contentement. Savoir se contenter de ce que l'on a. Vous avez entendu parler de l'iPhone numéro 5 qui va bientôt sortir, et le nouveau Mac qui est sorti, qui est plus fin qu'aucun autre ordinateur. Alors, j'ai un iPhone 5, donc je me prêche à moi-même. J'ai vu le danger de désirer de l'informatique. Quand j'étais jeune chrétien et que pour acheter mon premier ordinateur, à l'époque c'était les tours coréennes, qui n'était pas cher du tout par rapport aux IBM et autres ordinateurs, c'était très cher. On pourrait y acheter deux iPads maintenant avec le prix d'un vieil ordinateur poussif qui avait un écran noir et blanc. Mais je me rappelle, j'avais délaissé la lecture de la parole de Dieu pour étudier les comparatifs de consommateurs. À celui-là, c'est pas noir et blanc, c'est orange et noir, c'est déjà mieux. Et puis si je veux avoir plus de 54 de mémoire, de capacité disque, je peux, en mettant seulement $50 de plus que doubler la capacité, je pourrais mettre les rédactions, les textes que Tonio tape en mémoire sur mon ordinateur. C'est le ressort de notre économie aujourd'hui. Faire consommer, convaincre les gens que le bonheur se trouve dans l'acquisition d'un autre gadget. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une voiture, ça peut être la nouvelle paire de chaussures en solde. c'est les soldes d'été. Donc c'est pas grave. C'est moins grave, n'est-ce pas ? Non, c'est l'opposé du contentement. Alors ça vient pas tout seul, le contentement. Paul disait lui-même dans Philippiens, si vous voulez vous y tourner, c'est quelques pages sur la gauche. Chapitre 4 de Philippiens. On peut lire à partir du verset 10. Paul écrit aux Philippiens qui lui ont envoyé une collecte, un support financier. Et il leur dit, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. » Et là, il ajoute, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter. » C'est le même mot, le même concept de l'état où je me trouve. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Puis il leur dit que c'est bien qu'ils aient envoyé ce don. Il leur dit, verset 17, « Ce n'est pas que je recherche ce don, ce que je recherche, c'est le fruit porté à votre compte. » Il a, si vous avez bien noté, il a dû apprendre à se contenter de l'état où il se trouve. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de surnaturel et c'est une grande bénédiction de pouvoir ne pas passer du temps, de l'énergie, du désir à vouloir plus, à vouloir mieux, mais à se dire j'ai un vieil ordinateur, c'est sûr qu'il fait pas des, il serait pas très bon pour jouer à des jeux en ligne, mais je joue jamais à des jeux en ligne. Tout ce que je fais, c'est de taper du texte comme sur ma machine à écrire et d'imprimer. Alors mon vieil ordinateur, il est suffisant. Quelqu'un a dit, ce n'est pas ce que vous n'avez pas qui vous empêche d'être satisfait, de vous contenter de votre situation, mais c'est ce que vous pensez, ce dont vous pensez avoir besoin. Ce n'est pas la réalité de votre état, c'est votre imagination qui est travaillée par les publicistes. La pub. Ils pensent, il y a des produits, maintenant ils vont être taxés un peu plus cher, comme de l'eau sucrée, qui s'appelle du Coca-Cola, où le budget de la publicité est plus élevé que le besoin de ressources pour faire cette eau sucrée. Faire fondre du plastique et les former en bouteille, même si la bouteille a une forme particulière, une forme spéciale, même si c'est du Coca-Cola classique, c'est-à-dire qu'on a repris la recette d'il y a 60 ans qui marchait pas mal, mais on va vous faire une pub, un battage publicitaire, et vous allez dire, c'est vrai, si je veux être heureux, regarde tous ces gens, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils s'amusent, ils n'ont pas de soucis. Si je bois de cette eau sucrée dans cette bouteille en plastique, alors je vais être beau, je vais être jeune, je vais m'amuser, je vais pas avoir de soucis. Là, vous êtes tombé dans le piège. Le contentement. Et la piété, c'est pas un moyen pour avoir de l'argent. La piété, c'est un vieux mot. En grec, c'est le mot Eusèbe. C'est un vieux prénom François, ça, Eusèbe. Il n'y en a plus tellement des Eusèbe. Et cette piété, ça veut dire simplement vivre pour plaire à Dieu. C'est de ressembler à Christ dans notre comportement. Et les faux prophètes, les faux enseignants pensent que cette piété, faire semblant qu'on est spirituel, c'est une source de gain. Ce qui compte, c'est de devenir riche. Et la doctrine de la prospérité est l'exemple même de ce genre de fausse doctrine qui n'est pas une nouvelle doctrine, nouvelle philosophie, nouvelle approche de la foi chrétienne, c'est le vieux mensonge de Satan. Si vous apparaissez spirituel, si vous allez à l'église, vous allez faire des relations commerciales, Dieu va être obligé de vous bénir. Vous pourrez réclamer votre argent parce que vous avez donné de la monnaie semence à tel prédicateur à la radio, à Benny Hinn, pour ne pas le citer, à Kenneth Hagin. Et on pourrait, malheureusement, la liste est longue. Ce qui est terrible, c'est que lorsque vos voisins regardent la télévision et qu'ils voient des prédicateurs, ce sont souvent ces credo dollars, ce noir américain qui a l'audace incroyable de se faire appeler credo dollars. Il va droit au but, lui. Ce qui l'intéresse, c'est le credo pour avoir le dollar, la foi qui amène de l'argent. Et malheureusement, cette doctrine, elle a beaucoup de succès. Oh, surprise! Venez à l'église et vous serez riche, et bien portant. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'êtes pas riche, il y a du péché dans votre vie. Ou vous ne faites pas assez confiance à Dieu en envoyant votre monnaie à l'adresse postale suivante. Discernement, discernement. C'est à leurs fruits qu'on les connaîtra. Le but, c'est pas le gain, la piété, plaire à Dieu, avoir une vie qui lui plaît, ça c'est le but. Mais il faut savoir de se contenter de ce que l'on a. Sinon, on veut toujours plus. Il y a toujours une nouvelle version, même si Steven Jobs a pris sa retraite suite à sa grave maladie. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'il y aura un iPhone 5, un iPhone 6, peut-être avec un autre nom, mais ça va pas s'arrêter. C'est le nerf de la guerre, c'est pas l'argent, c'est de sortir de nouveaux produits, de capturer le marché. J'étais à la plage l'autre soir. Et je cherchais dans les galets, en les poussant, je cherchais des petits bouts de verre. Puis je les collectionnais. Puis j'ai dit à Nancy, tu sais, ça me rappelle qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'amusait quand on était gosse, sur pratiquement la même plage. On venait en famille, on passait toute la journée. On empilait des cailloux les uns sur les autres. On cherchait dans les galets des petits bouts de verre qu'on collectionnait. On avait pour pique-nique un bout de baguette avec une barre de chocolat, avec un morceau de vache qui rit, une bouteille d'eau, et on était les plus heureux du monde. Maintenant, il y a les jet skis devant vous. Il y a les gens qui se font tirer en parachute ascensionnel. C'est pas drôle de chercher les bouts de verre, les empiler des cailloux les uns sur les autres. Ça peut être tout aussi sympa, tout aussi drôle, suivant la compagnie que vous avez, suivant votre état d'esprit, suivant votre attitude devant Dieu, devant la beauté de sa nature. Mais ça doit s'apprendre. Et la piété, si on sait savoir se contenter de ce qu'on a, quelle bénédiction, quelle richesse. Matthieu 6, on va le relire encore parce que on le sait, on le connaît ce passage. Mais qu'arrive un nouvel iPhone ou les soldes à Nice Étoile, et là le contentement, il cesse. Verset 24 du chapitre 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le Dieu des richesses, Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas aussi, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait de ce dont vous avez besoin, que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus, par-dessus. Ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on dit bah, je ne fais rien, le Seigneur va me nourrir? Non, à chaque jour suffit sa peine. Vous devez vous soucier de ce que vous faites le jour même. Vous devez compter le coût de vos entreprises. Vous devez travailler, on en a parlé la semaine dernière. Si vous ne travaillez pas, Paul disait, pas de nourriture. Pas de boulot, pas de bouffe. Pas de boulot, pas de bouffe. Je le dis en termes vulgaires pour que ça rentre. Verset 7, revenons à Timothée. Nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. On a commenté là-dessus la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappellerai que quand vous êtes né, vos parents vous ont déclaré à la mairie ou à l'autorité locale pour que vous soyez enregistré, qu'il y ait un certificat de naissance. On vous a emmailloté, on vous a mis des langes, des couches-culottes, des pampers, si vous avez regardé la télé. C'est les meilleurs, elles ne fuient pas dans les coins. On vous a nourri, on vous a mis dans un truc à roulettes et on vous a poussé. Et puis vous avez pris de l'âge. Puis vous êtes devenu un adulte responsable. On vous demande toujours votre certificat de naissance de temps en temps. Et puis il arrive un moment où vous commencez à avoir du poil dans les oreilles. Pour les messieurs. Pire encore, vos oreilles commencent à grandir. C'est un mauvais signe. Puis bientôt, il faut qu'on vous nourrisse. Et puis bientôt, on va vous mettre dans un truc à roulettes et on va vous promener. Et puis bientôt, vous allez tomber malade, gravement, et vous allez mourir. Et là, on va vous désenregistrer. Pas sur Facebook, ça ne marche pas encore. Vous serez encore sur Facebook. Facebook, c'est l'éternité. Mais on va donner à vos héritiers ou à votre femme ou à votre mari un certificat de décès. Et on vous avait mis dans un berceau, un joli petit berceau en bois. On va vous mettre dans un joli petit truc en bois qui s'appelle un cercueil. Peut-être qu'on vous enterrera dedans, qu'on vous fera brûler, qu'on mettra les cendres dans un pot. C'est plus facile à transporter. En plus, on peut le mettre dans un endroit sympathique qui rappelle des bons souvenirs. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas un portefeuille à l'arrière de vos fesses. Et que quand vous allez repartir, vous allez tout laisser. Vous n'allez rien emporter. La preuve, c'est Toutankhamon. Il s'était dit, je veux bien partir, on n'a pas le choix, mais je veux avoir mon chariot doré, je veux avoir mes ustensiles créés par des artistes uniques, je veux emporter tout ça dans l'au-delà. On n'a pas retrouvé Toutankhamon, on a retrouvé sa dépouille, sa momie, mais on a retrouvé tout le reste si ça n'avait pas été volé par des pillards avant. On ne peut pas l'emporter avec nous. Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, ça devrait nous suffire. Si vous avez de quoi vous loger, un toit sur la tête, de la nourriture, de quoi vous vêtir, le reste, c'est du superflu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas donner des fois du superflu, des fois qu'il vous bénisse. Mais ce qui compte, c'est ce contentement. Le problème pour ceux qui ne sont pas riches, on a vu à la fin, il parle aux riches. Et le problème de l'argent, ce n'est pas le problème de ceux qui n'en ont pas ou le problème de ceux qui en ont. Le problème de l'argent, c'est comment on considère l'argent. J'ai un beau-frère qui est Mike, qui est devenu chrétien suite à une promesse qu'il avait faite à Dieu. Si Dieu le sauvait d'une noyade certaine lorsqu'il pêchait en Alaska, il allait le servir, revenir à l'église. Il avait été exposé à la foi quand il était enfant. Et il s'est lancé dans la foi. Il a fait confiance à Dieu. Il est parti étudier dans un institut biblique, dans une école biblique. Il a parlé de Dieu autour de lui. Il a causé dans la famille de Nancy un réveil. Nous avons été touchés par son témoignage. Et il est parti au Népal. D'abord à Pokhara, qui est une grande ville, la deuxième grande ville. Et puis après, il est parti à Nishi. Nishi, c'est un petit village à 3 ou 4 jours de trek, de randonnée, C'est pas vraiment de la randonnée pédestre plaisante. C'est 4 jours de marche dans un petit village perdu. Et il avait cette idée que ces gens qui n'avaient pas été touchés par la civilisation occidentale pourrie, ça allait être facile de leur annoncer l'évangile. Qu'il n'y aurait pas la corruption, qu'il n'y aurait pas la cupidité du monde occidental. Il a vite déchanté. Il a vu que les gens pouvaient se jalouser pour un seau en plastique. Or, ce n'est pas un iPhone ou un iPad hyper perfectionné, c'est simplement un seau en plastique. Mais c'est l'autre qui l'a et moi je ne l'ai pas. Et l'envie fait son apparition. Et donc, ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir d'argent qui va vous mettre à l'abri du problème de l'argent, c'est comment vous voyez l'argent. Si c'est votre trésor, votre cœur va être là. Et là, d'abord, regardons. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Première chose, dans le piège. J'aime pas ce mot piège. Parce que par définition, un piège, c'est quelque chose qui nous attrape quand on ne s'y attend pas. Et si c'est un piège, si je ne suis pas prudent, je risque moi aussi de tomber dedans. Lorsque les armées révolutionnaires ou dans les conflits dans le monde, que une armée met des mines antipersonnelles sur un terrain pour empêcher leur progression ou pour causer une grande mortalité, causer plein de mutilés. Ils ne mettent pas de petits drapeaux rouges disant « attention, il y a une mine ». Au contraire, une bonne mine, c'est une mine qui ressemble à de l'herbe verte. Il y a même des tiges en plastique verte qui vont être sur la mine, qui, dès qu'on va passer, vont actionner le détonateur et tuer ou mutiler la personne. Le piège, par définition, il ne prévient pas. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Des désirs, c'est pas simplement « j'aimerais bien être riche un jour », c'est « si je veux être riche, je vais commencer par pas tout déclarer sur ma feuille d'impôt ». Et puis peut-être que si je m'associe avec telle personne, mais qu'au bout d'un moment je lui dis que ça ne marche plus, peut-être il me laissera le bureau, l'ordinateur, l'équipement, les tiroirs, peu importe. Mais dès qu'on veut s'enrichir, on commence à penser, on commence à faire des plans, à tirer des plans sur la comète pour savoir comment on va s'enrichir. J'avais un copain il n'y a pas longtemps qui disait « je vais m'enrichir en vendant des CD vierges ». Il pensait qu'il pouvait rivaliser avec les grandes compagnies, donc il pensait en acheter en quantité et les revendre. Mais le temps qu'il ait réussi à faire de l'argent, c'était déjà les MP3 qui étaient arrivés. Ça nous plonge, si on veut s'enrichir, dans la ruine et la perdition. Ce qu'on recherche, non seulement on ne l'obtient pas, mais on obtient l'opposé de ce qu'on recherche, la ruine. On veut s'enrichir, on met toutes nos économies dans quelque chose et on va tout perdre. On va perdre plus qu'on a investi. Et ça nous plonge donc dans la ruine, dans la perdition. Ce mot de perdition nous fait penser à Judas. Il y a plein d'exemples dans la Bible d'hommes qui ont cherché à s'enrichir et qui sont tombés dans ces pièges, qui sont tombés dans la perdition, qui sont tombés dans la ruine. Judas en est un pour 30 pièces d'argent. Il a trahi le roi des rois, le fils du père, qui était venu mourir pour lui, qu'il a connu pendant 3 ans. Tout ça parce qu'il avait cette cupidité dans le cœur. Il s'était retrouvé avec la caisse des apôtres, et là encore, il en mettait dans sa poche. Ça peut être facile d'acheter un iPhone et de l'utiliser avec Jésus et les disciples. Où t'as acheté ça, toi ? Oh, je l'ai trouvé. Mais c'est un exemple. Encore une fois, il y a des exemples d'hommes très riches dans la Bible qui ont bien utilisé leur argent. On va y revenir à la fin du chapitre. Et là, le verset qui est sans doute le verset le plus mal cité de la Bible, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Souvent, les gens disent « L'argent est la source de tous les maux. » Dans votre traduction, il est peut-être dit « L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » Ce n'est pas dans le texte original, c'est « toutes sortes », c'est de tous les maux. Une meilleure traduction serait « L'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. » Encore une fois, ce n'est pas l'argent qui est la racine des maux. L'argent, c'est neutre. L'argent, c'est une ressource. L'argent, c'est une décision. C'est l'amour de l'argent, la cupidité. Et il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, encore une fois, pour avoir cet amour de l'argent. Quand j'étais gosse, j'avais une tante en Corse, la vieille tante Nanette, qui avait spolié mon papa en lui faisant signer un papier à l'époque, peu importe, paix à son âme. Mais quand j'étais allé la voir, elle avait d'abord failli faire une crise cardiaque parce qu'apparemment j'étais le portrait craché de Pedro Paolo. Oh ! J'étais comme un fantôme. Et du coup, elle était descendue, il y avait une cave, on pensait qu'il y avait une marmite remplie de lingots d'or ou de pièces d'or. Mais j'avais eu droit à un Napoléon. Et ce Napoléon, c'était mon trésor. Une vraie pièce d'or, comme dans Rackham le Rouge de Tintin. Une vraie pièce en or. À l'époque, ça coûtait 300 francs. C'était pas beaucoup, mais c'était une pièce en or. Et j'avais demandé qu'on m'offre un jouet, un petit coffre-fort, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il était sur mon bureau et il y avait une combinaison pour que ma sœur ne puisse pas s'emparer de mon trésor. Le problème avec ce trésor, c'est que j'ai toujours ce lingot. Ce Napoléon, ça serait la même chose avec un lingot. Pourquoi ? Parce que jamais je veux m'en séparer en me disant « Peut-être qu'un jour, il vaudra encore plus. » Il est monté jusqu'à 290 euros. Pas mal pour une petite pièce. Mais si je la vends, d'abord, je vais devoir payer une commission. Et qui sait, quand ça va vraiment être le chaos économique, peut-être que ce sera 500 euros. Mais peu importe, parce que jamais je m'en départirai. C'est mon trésor. Sauf quand on me mettra dans la chaise roulante, qu'on me poussera et qu'on me mettra des couches. Je vois des infirmières qui savent ce que c'est. Et je ne l'emporterai pas, je les laisserai. L'amour de l'argent. Ce n'est pas le montant qu'on a, c'est notre attitude vis-à-vis de cette ressource. C'est une source de bien des maux, de tous les maux. Vous pouvez penser aux guerres, vous pouvez penser à la prostitution, vous pouvez penser au vol. L'autre grande source de maux, c'est peut-être le désir sexuel. On a rappelé en étudiant les rois que Salomon avait accumulé des femmes, des chevaux et de l'or. L'or, on en parle. Les autres dangers pour tout homme, c'est le désir de puissance, les chevaux et le sexe, les femmes. Mais l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité, l'appât du gain, l'avarice. Jamais je te donnerai mon Napoléon. Il est à moi. Tout ça, ce sont des choses qui sont source de bien des maux, bien du mal. On dit qu'il y a les catastrophes naturelles auxquelles on ne peut rien. Quelques années à Vaison-la-Romaine, il y avait eu des inondations terribles, il y avait eu des morts. Mais si on regarde bien, il y avait eu des morts parce qu'il y avait eu des zones non constructibles qui avaient été cédées à des promoteurs. Pour de l'argent. L'argent, l'argent. Et ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Revenons à Matthieu, au chapitre 13. La parabole du semeur. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas l'étudier. Je veux juste attirer votre attention sur un mot. Donc, chapitre 13 de Matthieu. Il est question des différents types de sol, de terrain. Il y a la bonne terre. Il y a le chemin qui est dur, les endroits pierreux, et puis il y a ceux où il y a plein d'épines qui étouffent. Mais au verset 22, Jésus explique à ses disciples le sens de la parabole. Et il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les richesses, elles séduisent. C'est-à-dire que les richesses, elles sont trompeuses. Verset 17, maintenant, si nous revenons à 1 Timothée, chapitre 6, recommande aux riches, à ceux qui ont de l'argent du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ces richesses qui nous trompent, elles sont incertaines. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec toute abondance pour que nous en jouissions. On ne peut pas adorer Dieu et adorer l'argent. Si vous mettez votre foi dans les richesses, Dieu va vous montrer que c'est un faux Dieu et ces richesses ne vont pas durer. Je parlais avec le directeur de la banque où l'Église a ses ressources, ses comptes en banque. Le compte en banque de l'Église est à la Société Générale. Et j'ai déjà raconté l'histoire que il y a quelques années, nous étions à la recherche d'un prêt pour financer l'achat de ces locaux. Et le directeur m'avait dit, oh, vous savez, je suis vraiment désolé, on a envoyé votre demande et votre dossier à Marseille, la direction régionale. Malheureusement, ils peuvent pas. Ils ont dit que qu'est-ce que c'est qu'une église, une association d'églises évangéliques. Rien ne nous dit que dans 5 ans, vous serez encore là. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sachez que rien ne me prouve, monsieur le directeur de l'agence de la Société Générale de Magnan, que la Société Générale existera encore dans 5 ans. Il avait souri en disant « Pauvre imbécile !» J'ai dit « Tout est une matière de foi. » Le nouveau directeur avec qui j'ai parlé m'a dit « Oui, la situation est grave, surtout pour mon portefeuille. La prime de 8000 euros que j'avais jusqu'à présent, lorsque le cours de l'action était à 170 euros, il y a 10 ans, ils nous l'ont sucré. » Alors, c'est une expression drôle en français. On sucre quelque chose, ça veut dire qu'on l'enlève. Pourquoi ? Parce que juste quelques semaines après que j'ai fait remarquer que là, j'avais placé ma foi dans sa banque, il devrait placer sa foi dans mon association, il y a eu le coup de Jérôme Kerviel. Première attaque sur la Société Générale. L'action avait pris un sacré coup. Aujourd'hui, l'action oscille au-dessus de 20 euros. Elle a perdu plus d'un huitième de sa valeur en quelques années. Rien ne nous garantit, même que le cours de l'or, rien ne me garantit que mon Napoléon, il est au fond d'un pot, le problème c'est que je ne sais plus lequel, il ne va pas perdre toute sa valeur. Les richesses sont incertaines. C'est stupide de mettre sa confiance dans les richesses. D'autant que plus on en a, plus on en veut. On a dit que la richesse était comme l'eau de mer. Plus on en buvait et plus on en voulait. Plus on avait besoin pour être désaltéré. Rockefeller, on lui demandait combien il lui fallait encore d'argent pour être vraiment satisfait. Il avait dit « Encore un million de dollars ». Et on lui avait dit « Et après, ça sera tout ?» Il a dit « Non, encore un million de dollars ». On veut toujours plus. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut mettre son orgueil, comme le font les riches, dans l'argent qu'on a. Oh, je ne me mélange pas avec ces SDF. Je ne leur parle pas, ce sont des manants. Moi, je viens d'une famille fortunée. On a de la richesse depuis le Moyen-Âge dans notre famille, monsieur. Quelle vanité. Vanité, ça veut dire que c'est vide. On place son orgueil dans des choses vides. Alors que Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Si votre attitude vis-à-vis de l'argent est bonne, si elle est pure, si vous recherchez Dieu d'abord, il vous donne ces choses en plus. La semaine dernière, je vous ai remarqué qu'on, pour certains des missionnaires, c'était quelque chose de voir qu'on passait une semaine de vacances dans un château en Autriche sur un lac. Alors vous allez dire, oui, mais c'est bien beau, oui, mais on t'a juste prêté une semaine, c'est pas à toi. Non, merci, Dieu merci, j'ai pas tous les soucis de gestion, d'impôts, de mise en conformité aux normes, etc., etc. Dieu nous donne tout avec abondance, pas pour que nous fassions du souci, mais pour que nous en jouissions, pour que nous en éprouvions du plaisir. Et il dit qu'il fasse le bien. Qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. Et ainsi, ils peuvent s'amasser un solide trésor, un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Il y a un très bon petit bouquin par un dénommé Randy Alcorn, un pasteur américain, qui s'appelle « Le principe du trésor ». Il existe en français. Quelqu'un l'a acheté la semaine dernière. Quelqu'un est ici ? Quelqu'un se souvient de l'avoir acheté ? J'ai que la version anglaise. C'est un très bon bouquin qui dit que le principe du trésor, c'est que c'est Dieu qui possède l'argent, les richesses. Et surtout, il nous dit qu'on ne peut pas emporter son argent avec soi. On a rappelé la semaine dernière qu'il n'y a pas d'attache à l'arrière du corbillard pour mettre votre remorque et vos ordinateurs, votre écran plasma de 2 mètres de diagonale. Je continue pas parce que je sais sinon que je nous toucherai tous. Il n'y a pas de... On ne pourra pas mettre le Kandal d'IKEA, canapé, qu'on n'a pas pu mettre dans la fourgonnette ce week-end, qu'on n'a pas pu acheter, Dieu merci, pour l'exemple. Mais j'aimerais bien avoir ce canapé quand même un jour. Pour vous inviter. Bien sûr, on justifie nos désirs. On ne peut pas emporter son argent avec soi, mais on peut l'envoyer avant. Vous pouvez envoyer votre argent avant. Et c'est une très bonne idée que d'envoyer son argent avant. En anglais, quelqu'un dit « Do your giving while you're living, so you're knowing where it's going ». En français, on dirait « Donne à celui qui n'a pas, tant que tu es encore là, pour savoir où ton argent va, d'autres méthodes, il n'existe pas ». Certains disent « Je vais être généreux, je vais léguer toute ma fortune à l'Église ». Ben bravo! De toute façon, votre argent, vous ne pourrez pas l'envoyer. Dieu va sans doute être très touché que vous laissiez l'argent que vous ne pouvez pas emmener avec vous. Ah oui, mais c'est pour l'Église. Non, si vous donnez au royaume de Dieu, si vous soutenez votre Église locale, si vous soutenez des missions, si vous soutenez des ministères chrétiens prouvés, pas le gars qui vous dit « envoyez votre semence ». Et vous allez, je vous promets, vous allez devenir riche. Envoyez-lui une lettre et dites, pourquoi vous ne faites pas l'inverse? Vous qui avez beaucoup d'argent déjà, quand vous allez envoyer tout ça, waouh, qu'est-ce que vous allez vous recevoir si vous croyez à votre fausse doctrine? Il n'y a pas de semence. Le mot de semence, il n'existe pas dans la Bible concernant l'argent. Quelques principe, je vous encourage à... On va essayer de recommander ce livre et à le lire ou à l'emprunter. Vous ne pouvez pas le posséder ou alors vous l'achetez pour le donner. Dieu possède tout, je suis seulement le gérant de ses ressources. Ma fortune personnelle, elle n'est pas personnelle, c'est Dieu qui me l'a confiée pour un temps. Deuxièmement, un rappel, mon cœur va aller toujours vers l'endroit où je mets l'argent qui appartient à Dieu. Si je le mets à la bourse, je vais être préoccupé par la bourse. Si je le mets dans les missions, je vais écrire aux missionnaires, je vais lire leurs lettres de nouvelles en entier. Peut-être que vous êtes dit, ces missionnaires, ils sont pénibles, ils envoient des lettres. J'ai pas du tout envie de les lire, c'est trop long, je les lirai plus tard. Je vous garantis que si vous donnez des bonnes sommes d'argent à ces missionnaires, vous voudrez savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de votre argent confié à vous. Ma demeure, c'est le ciel, c'est pas la terre. Ça sert à rien de vous construire une villa avec une piscine, etc. Ça peut être bien pour en profiter. Et Dieu n'interdit pas, encore une fois, ne croyez pas qu'il faut être soit pauvre, soit super riche. Dieu peut vous bénir. Faites-en profiter les autres. Soyez généreux avec vos ressources. La vie, ici-bas, c'est un point. L'éternité, c'est une ligne qui va jusqu'à l'infini. Est-ce que vous vivez pour le point ou pour la ligne? Je veux avoir un beau point. La ligne qui vient après, je ne veux pas y penser. La ligne va être là, la ligne est là. L'éternité, c'est une réalité. Je dois vivre pour la ligne, non pour le point. Ça, c'est le quatrième principe. L'antidote au matérialisme, à la cupidité, il est très simple. C'est la libéralité, c'est de donner. Plus vous donnez, plus vous allez être libéré de cette cupidité. Et fait extraordinaire, prouvé, promis par la Bible, Malachie 3:10, essayez de relever le défi que Dieu vous met. Il vous dit que si vous donnez, il va vous donner encore plus. Il y avait un industriel américain au nom français, Le Tourneau, il était peut-être québécois, qui a bâti une fortune dans les engins de terrassement. Et c'était un chrétien très engagé qui, il était connu, alors c'est peut-être pas bien qu'on le sache, mais c'était aussi un bon exemple. Il donnait 90% de ses revenus aux missions. Et il disait, je donne mes ressources avec ma pelle à Dieu, mais Dieu me redonne des ressources avec sa pelle. Et disait, ce qui est formidable, c'est que sa pelle, elle est beaucoup, beaucoup plus grande que ma petite pelle. Si vous n'avez jamais donné la dîme parce que vous dites, il ne me reste plus rien à la fin du mois, je vous mets au défi. Encore une fois, c'est, comme disait Paul, ce n'est pas pour mon gain, pour le gain de l'Église. Pour l'instant, l'Église ne me paye rien du tout. L'Église subvient aux besoins du ministère, le remboursement du prêt, etc. Même si on a vu qu'il serait une bonne chose qu'éventuellement le bœuf puisse se nourrir de son champ de pâture. Autrement dit, que je puisse tirer un bénéfice financier éventuellement de vos dons. Ce n'est pas notre but, parce que nous voulons surtout pas que l'argent soit un obstacle à l'Évangile. C'est ce que faisait Paul. Il travaillait pour, bien qu'il ait eu le droit de demander une contribution à ses besoins financiers personnels, il le disait, il a dit, j'ai laissé ce droit qui est légitime pour qu'on ne puisse pas m'accuser de quoi que ce soit et faire ainsi tort à l'Évangile. Donnez à Dieu et vous allez voir comment il va vous bénir en retour. Alors, bien sûr, vous allez dire, oui, mais si je le fais maintenant, c'est pour avoir plus d'argent, donc la motivation, Dieu triera vos motivations. Mais c'est un principe, c'est une question de foi. Est-ce que vous avez foi en Mammon? Est-ce que vous avez foi en la Société Générale? La Bourse de New York? La Bourse de Paris? Le système économique mondial? Qui a l'air en si bonne santé? Vous avez foi dans Dominique pour régler les problèmes? Ou Christine? Alors très bien, ou Obama, ou Nicolas? Ou est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que votre foi, est-ce que votre portefeuille est là et où est votre foi? C'est un défi. Sixième petit point, Dieu me prospère, non pas pour que je puisse augmenter mon niveau de vie, mais pour que je puisse augmenter mon niveau de libéralité, pour que je puisse donner davantage. C'est ce qu'avait bien compris cet industriel qui disait qu'il donnait, mais que Dieu lui redonnait davantage pour qu'il puisse donner plus. Et si vous mettez en pratique ces choses-là, Dieu vous promet que vous ne manquerez de rien. Il va pourvoir à tous vos besoins et vous allez voir qu'en plus, il est bon. Et de temps en temps, il mettra un écran plasma dans le lot, un canapé, un iPad, même peut-être un bateau ou une villa. C'est très terre à terre, parler d'argent ainsi. Mais la foi chrétienne, c'est justement quelque chose qui est ancré dans le réel, dans le vivant. Et la meilleure façon dont nous pouvons prouver notre attachement à Dieu, c'est en montrant notre détachement vis-à-vis du matérialisme. Nous vivons dans une société qui qui est basée sur le matérialisme. Notre seul espoir de ne pas voir l'économie s'effondrer, c'est toujours la fuite en avant. C'est les nouveaux marchés. Une fois que tous les Chinois auront leur grand écran plasma et leur iPad, aïe, 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 ça va être dur. On a tout à repenser pour avoir une économie qui puisse subsister longtemps. Et Dieu nous dit, cherchez-moi d'abord, et toutes ces choses, je vous les donnerai. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces enseignements, merci pour ces vérités que tu assènes à nos cœurs incrédules, Seigneur. Que ces vérités, Seigneur, nous les mettions en pratique dans notre vie. Chacun de nous, Seigneur. Je ne me considère pas libéré de cette cupidité, de cet intérêt pour les choses matérielles, Seigneur. Nous sommes tous susceptibles, mais toi, tu veux nous libérer, Seigneur. Et tu nous dis, donnez, faites des œuvres bonnes. Seigneur, je te remercie pour les personnes que nous connaissons, pour ce couple suisse qui nous a fait un prêt, Seigneur, à taux zéro, pour nous pratiquement nous donner de l'argent, Seigneur, pour pouvoir acquérir ces locaux. Bénis-les, Seigneur. Et tu connais tous ceux qui peuvent être connus, qui ont fait preuve d'une grande générosité. Seigneur, la vraie richesse, c'est de pouvoir être généreux, c'est de décider d'être généreux, tout en étant responsable de nos ressources, de prendre soin de nos familles et de ne pas faire n'importe quoi, Seigneur, mais éclaire chacun de nous pour qu'ensemble, Seigneur, nous acquérions cette piété qui te plaît, qui est avec le contentement, qui est vraiment une source de bénédiction dans nos vies. Seigneur, je te demande vraiment d'appliquer ces enseignements, ces vérités dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu inspires déjà comme générosité. Je te remercie pour tous ceux qui donnent de leurs ressources, Seigneur. L'Ancien Testament parlait d'un dixième. Seigneur, sans doute, vu tout ce que tu nous donnes en plus, l'assurance de ton Saint-Esprit qui demeure en nous, Seigneur, tu considères sans doute ces 10% comme un point de départ, Seigneur, mais tu nous dis dans ta parole que tout ce qui compte, c'est d'avoir un cœur joyeux lorsque nous te donnons, Seigneur. Un cœur qui reconnaît que tout ce que nous avons, ça vient de toi, Seigneur, c'est pas à moi. Je vais devoir tout laisser derrière moi. Seigneur, donne-nous de bien utiliser les ressources que tu nous confies. Donne-nous d'encourager les besoins qui existent, Seigneur, pour ton royaume. Nous prions ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui était riche a tout donné pour que nous soyons riches du salut, Seigneur, de la connaissance de Dieu, de la connaissance de notre Sauveur. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.